Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Aujourd'hui, la rediffusion d'une émission intitulée « Les bonnets rouges, fidélité ou usurpation » qui avait été proposée une première fois le 25 janvier 2014.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Je viens de lire le rapport de M. de Montesquieu, je ne sais pas s'il y voit bien clair dans cette histoire de Bretagne. Je crois que nous avons affaire à une poignée de petits nobles cabochards dirigés par le marquis de Pontcallec, qui rêvent d'une république bretonne où il n'aurait plus d'impôts à nous payer.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions qui sont différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. En choisissant de se coiffer d'un bonnet rouge, les Bretons qui ont manifesté avec éclat et non sans succès à la fin de l'an dernier contre la fiscalité de l'écotaxe destinée à réduire le trafic des poids lourds sur les routes, ces manifestants ont fait explicitement référence à une révolte vieille de 339 ans. Il s'agit du soulèvement antifiscal qui a secoué la péninsule armoricaine sous le règne de Louis XIV en 1675. L'histoire l'a parfois baptisée du nom de « révolte du papier timbré » du fait de la taxe que Colbert imposa au début de la guerre de Hollande et qui mit le feu aux poudres, mais plus souvent de « révolte des bonnets rouges », un couvre-chef arboré dès cette époque ancestrale comme un signe identitaire par les habitants qui s'étaient soulevés contre les autorités. Ce rebond, cette rime, cet écho appelait évidemment dans cette émission à regarder les choses de plus près que la presse n'a pu le faire dans l'immédiat et à considérer, compte tenu de la nature complexe de ces deux émotions, comme on disait au XVIIe siècle, de ces deux mouvements collectifs, jusqu'à quel point, par-delà le jeu des symboles, le rapprochement est légitime en profondeur. J'ai convié à cette fin Joël Cornette, professeur à l'Université de Paris 8, qui est l'auteur, entre un grand nombre d'ouvrages précieux sur l'Ancien Régime, d'une histoire de la Bretagne et des Bretons, qui est déjà, 10 ans après sa parution, devenu un classique. Et pour commencer, écoutons Pierre Jacques Elias, l'auteur du Cheval d'Orgueil, un grand best-seller des années 1970.
Quelle image faut-il donner du Breton ?
Ah, il y a
des images d'Épinal.
Oui. Je crois que l'on peut dire, et ceci sans aller chercher midi à 14h, que nous avons vraiment le tempérament celtique. Nous sommes un petit peu anarchistes, nous sommes un petit peu aventureux, nous sommes portés vers les excès de joie ou des excès de douleur, nous sommes instables, nous cherchons toujours, comme disait l'autre là, qui s'appelait Chateaubriand, un bien inconnu dont l'instinct nous poursuit, et c'est ça finalement qui a fait qu'il n'y a pas eu de royaume celte. Nous avons été vaincus au cours de l'histoire, à chaque fois qu'un Romain s'est attaqué à nous, il nous a vaincus pour la bonne raison que nous n'étions pas capables d'avoir l'idée, par exemple, de monter un empire. Nous n'avions absolument pas du tout, d'ailleurs, envie d'en faire. Ce qui caractérise le Celte, par exemple, c'est qu'il n'a jamais cru qu'en mettant des frontières et des douaniers autour d'un territoire, il ferait de ce territoire le sien.
C'était là l'extrait d'un entretien de Pierre-Jacques Elias, donc avec Jacques Chancel, dans Radioscopie sur France Inter, le 9 octobre 1975. Joël Cornette, bonjour.
Bonjour.
Nous avons là un texte très représentatif, je crois, de cette idée qu'il y aurait une identité bretonne.
C'est très frappant dans ce qu'il dit. Le mot « vaincu » revient plusieurs fois. Image d'Épinal, excès, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'image d'une Bretagne dont on a dénaturé son histoire, mais en même temps, Pierre-Jacques Hesselias, c'est aussi l'identité retrouvée. Donc on a les deux mouvements, finalement. On est fier d'être breton, mais en même temps, on sait que cette histoire est une histoire un peu malheureuse, un peu mélancolique, et c'est un peu ce qu'il exprime, je crois, dans ces quelques mots.
Il parle des Romains. On peut noter en passant que Morlaix, qui a été le cœur de la révolte dont nous allons parler, celle de 1675, est précisément à l'endroit qu'a choisi Uderzo pour situer le village d'Astérix.
Oui, on n'est pas très loin, effectivement, de l'épicentre de la révolte dont on va parler, celle des bonnets rouges ou bleus, des torébènes aussi, des casse-têtes. Enfin voilà, il y a différents vocables pour qualifier cette révolte qui est complexe et qui unit des groupes sociaux très différents, des mécontents qui vont exprimer leur mécontentement avec violence.
Nous avons une heure pour démêler cette complexité. Et pour commencer, bleu ou rouge ?
Bleu et rouge. Couleur, c'est une identité régionale, locale. Regardez encore aujourd'hui la diversité des costumes bretons. Chaque village veut s'identifier par une couleur. Alors au XVIIe siècle, c'est encore peut-être un peu trop tôt. Hein. Les costumes bretons, c'est assez tardif, c'est XIXe siècle. Mais je crois qu'il y a dans cette couleur, en tout cas, une revendication. On sait qu'en Cornouailles, notamment, le bonnet rouge était vraiment un signe qui manifestait la reconnaissance locale d'une communauté. Et du reste, on va parler d'un cahier revendicatif au cœur de la révolte, qu'on appelle le Code paysan. Le premier article de ce code précise bien qu'on voudrait que des paysans soient représentés aux États et qu'on leur paye le bonnet rouge pour qu'ils aillent bien habillés, en quelque sorte, à la ville pour présenter les doléances des paysans.
À propos du costume, il y a une légende qui apparemment a surgi au XIXe siècle, selon laquelle la fameuse coiffe des Bretonnes serait une manière de rappeler avec chagrin, avec ostentation, les clochers qui ont été démolis à la fin de la révolte de 1675 par les troupes royales.
Oui, il y a du vrai et du faux. C'est vrai qu'entre le XIXe siècle, apparition évidemment des coiffes des Bigoudens et puis les clochers abattus de 1675, il y a quand même un espace de temps très grand. Et donc, il est quand même difficile d'imaginer que ce soit une sorte de réaction avec un décalage de 2 siècles de la révolte. Mais en tout cas, ça a frappé parce qu'il y a là une sorte de proximité locale. C'est-à-dire, effectivement, les coiffes pointues des Bigoudens correspondent au territoire de la révolte de 1675. Donc on est quand même dans l'histoire longue de la Bretagne et de l'Armorique, plus précisément, ici.
Nous allons commencer notre conversation, Joël Cornette, en restituant ce que pouvait être l'image de la Bretagne avant 1675. Parce que s'y mêle, en somme, l'idée d'une grande distance, un pays étrange, un peu barbare, et en même temps la constatation que cette province est prospère. Peut-être la fin de cette prospérité étant un ressort de la révolte dont nous allons parler.
Absolument.
Et d'entrée de jeu, nous trouvons peut-être quelques échos, quelques ressemblances avec aujourd'hui.
Je dirais tout dépend d'où on parle. Si on parle de Paris, effectivement, les Bretons, c'est des ploucs. D'abord, ils ne parlent pas français. Et la Bretagne, très lointaine, je dirais, c'est un peu le Canada de la France. Et d'ailleurs, Richelieu, quand il veut exiler quelqu'un, il l'envoie à Quimper-Corentin. Et on aura même une fable de La Fontaine se gaussant dans le chartier embourbé du canton de Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. Dieu nous préserve du voyage.
Donc, oui, il y a c'était à la campagne, près d'un canton de Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage.
Voilà, alors ça c'est la Bretagne vue d'ailleurs.
Mais La Fontaine.
Maintenant, si on change de point de vue, si on se transporte en Bretagne, eh bien c'est tout autre chose qui apparaît. Et il est vrai qu'il y a un âge d'or de la Bretagne, c'est d'ailleurs le titre d'un livre d'Alain Croix. Et cet âge d'or, c'est un âge d'or marqué par une prospérité économique particulière. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, si vous visitez la Bretagne, notamment l'Armorique, vous serez frappé par, je dirais, la splendeur de la Renaissance bretonne, les enclos paroissiaux, la richesse des églises, la profusion du décor religieux. Et je dirais qu'il y a là, dans la pierre, le témoignage de la richesse économique, commerciale, agricole de la Bretagne des 14e, 15e, 16e siècle. Car ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette richesse est décalée par rapport à une France qui a des difficultés. On parle du sombre 17e siècle quand on parle du royaume de France. Par contre, la Bretagne continue son âge d'or jusqu'aux années 1650, 1660. Et justement, ça sera un des éléments clés, moteurs de la révolte. C'est que toutes les courbes que les historiens ont dessinées à partir des archives montrent qu'il y a un décrochage économique à partir des années 1760, c'est-à-dire 10 ans avant la révolte. Les prix baissent, le commerce des toiles, les toiles c'était l'or blanc de la Bretagne.
La toile de lin.
Les toiles de lin. Songez que les bateaux espagnols, les galions, leurs voiles sont bretonnes. Les bateaux qui vont en Amérique ont un peu de Bretagne en eux, si je puis dire. Or, cette prospérité économique tout à fait considérable, on s'aperçoit qu'elle est arrêtée, qu'elle est freinée à partir des années 1660-1670.
D'ailleurs, on est frappé du fait que la Bretagne ne s'est jamais soulevée au moment où d'autres parties de la France
absolument,
ont marqué leur protestation.
C'est un autre indice
contre le fisc.
Absolument, la première moitié du XVIIe siècle est marquée en France par toute une série de révoltes populaires extrêmement violentes. Je pense aux croquants du Sud-Ouest, je pense aux nu-pieds normands dans les années 1630. Or, la Bretagne se singularise à cette époque-là par un calme tout à fait important.
Décalage chronologique,
décalage aussi, je dirais, presque de fiscalité. On pourra y revenir, puisque l'impôt est une des clés, évidemment, de cette histoire. La Bretagne subit des prélèvements relativement légers. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne paie pas d'impôts. Il n'y a pas de taille en Bretagne. Il y a ce qu'on appelle le fouage, qui est héritier du duché de Bretagne, impôt direct, par feu. Or, cet impôt est beaucoup plus faible que la taille, par exemple en Normandie. Et donc, ce décalage de prélèvement peut expliquer la modération, le calme tout à fait relatif, mais réel, de la société bretonne dans la première moitié du XVIIe siècle.
Ça remonte à l'acte d'union de 1532 qui avait prévu une spécificité de la situation de la Bretagne, notamment du point de vue fiscal.
Voilà, une des dates clés de l'histoire de la Bretagne, c'est effectivement ce qu'on appelle ou le traité ou le contrat de Vannes, c'est-à-dire en fait l'association, la fusion, on peut dire, de la Bretagne dans le royaume français. Donc c'est à l'époque de François Ier. Et donc un texte a été signé, reconnu par les États provinciaux, et ce texte stipule qu'aucun impôt ne doit être levé en Bretagne sans l'accord des États provinciaux. Et donc ça peut expliquer, et c'est vrai que les rois ont à peu près respecté ce contrat, c'est-à-dire que les impôts ont été très modérés jusqu'à la période de Louis XIV, précisément. Et vous voyez, tout se concentre vers ces années 1660-1670, qui sont vraiment une rupture dans l'histoire bretonne, puisque cette singularité a été arrêtée, empêchée.
On ne peut pas se départir de la tentation de faire une comparaison avec l'écotaxe.
Oui, c'est-à-dire que les Bretons se sentent d'une certaine manière bafoués dans leur singularité, dans leur indépendance, dans leur identité, par un impôt qui accroît en quelque sorte encore plus leur, péninsularité. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on est un peu loin des grands courants commerciaux. Et donc impôt qui pèse notamment sur les transports, ça touche au cœur finalement d'une Bretagne lointaine, qui est une sorte de Finistère.
Il faut rappeler que Brest est à 7 heures de route de Paris et à 3 heures de Rouen, on l'oublie parfois. Donc évidemment, la question de la circulation des poids lourds sur les routes prend une acuité spécifique.
Et donc on peut penser qu'effectivement, on touche là à vif, en quelque sorte, une des revendications fortes de la Bretagne, c'est-à-dire qu'en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de péage sur les routes, c'est une singularité. Certains ont dit que ça remontait même à ce contrat de la reine Anne, c'est peut-être exagéré, c'est le général de Gaulle en 1969, dans son grand discours sur les régions, prononcé d'ailleurs à Quimper, qui a annoncé qu'il n'y aurait pas d'autoroute payante en Bretagne.
L'écotaxe, à l'époque, prend la forme de trois taxe nouvelle majeure.
Voilà. La clé de tout ça, c'est la guerre. C'est-à-dire que Louis XIV a engagé une guerre importante contre les Pays-Bas, contre la Hollande, qu'il espère écraser très rapidement. 20 millions de Français d'un côté, et puis 1 million de Hollandais. Donc pour lui, cette guerre, c'est une sorte de blitzkrieg vers le XVIIe siècle.
Elle dure.
Et elle dure, voilà.
À cause notamment de l'inondation des...
Voilà, c'est-à-dire que les Hollandais ont ouvert les vannes, transformant Amsterdam en une sorte d'île imprenable, et l'armée s'est finalement pratiquement noyée face à ce flot impétueux des Hollandais. Et donc la guerre qui devait être courte, et sinon joyeuse, devient une guerre longue, éprouvante,
très chère. On a besoin d'argent.
Voilà, et surtout c'est toute l'Europe contre la France. Et donc il faut absolument une armée toujours plus considérable, et donc l'impôt. L'impôt apparaît. Et donc,
Trois impôts,
voilà, coup sur coup. D'abord, une taxe sur le papier qu'on appelle le papier timbré, c'est-à-dire que tous les actes juridiques doivent avoir, disons, un paiement supplémentaire d'une livre, un seul par feuille. Et donc, c'est très embêtant. Quand vous faites un testament, quand vous faites un contrat de mariage, quand vous signez un contrat, eh bien, vous devez payer cette taxe en plus, ce qui, évidemment, agace, et en particulier les officiers, c'est-à-dire les notaires, les procureurs, les officiers qui vivent de ces procédures et donc qui voient leurs affaires diminuer en quantité. Donc, il y a un premier contentement là qui touche finalement les classes dirigeantes.
Et on voit déjà la question de l'alliance potentielle dans la révolte contre Paris des bourgeois et des paysans. C'est une problématique qui nous est devenue familière à la fin de 2013.
Oui, sauf qu'entre les révoltes de la ville et de la campagne, il y a quand même une grande distance. Mais en même temps, le papier timbré a aussi touché les paysans. Donc là, il y a aussi une solidarité.
La deuxième taxe,
voilà, c'est le tabac. Le tabac est mis en régie, c'est-à-dire que c'est l'État qui désormais monopolise le commerce du tabac. Et donc, les Bretons qui aiment beaucoup chiquer, notamment, qui aiment beaucoup la pipe, et ça les agace, ça les énerve. Et notamment les paysans. Et donc cette deuxième taxation, évidemment, les frappe aussi de plein fouet, d'autant que s'ajoute une autre taxe sur l'étain. C'est-à-dire que toute pièce en étain est aussi taxée d'un seul. Et donc voilà, il y a là une superposition d'agacement fiscal, dirons-nous, de ras-le-bol, on pourrait dire aujourd'hui, d'autant que ces taxes ont été décidées par l'État royal sans l'accord des États provinciaux. Et là, on touche l'identité bretonne, puisque tout à l'heure, je parlais du contrat de la reine Anne et du contrat de 1532.
On le viole.
On le viole, puisque finalement, on court-circuite les représentants locaux ou provinciaux pour imposer l'État central, finalement, impose une série de taxes. Et ça a été vraiment très, très mal perçu à Rennes et aussi dans les campagnes dont on va parler, qui vont entrer en révolte dans l'été 1675.
À propos de la protestation centrale qui est contre le papier timbré, écoutons cette chanson interprétée par Marthe Vassallo avec, à l'accordéon, Philippe Olivier en 2007. C'est une chanson d'époque. Et après, vous nous direz, Joël Cornette, de quoi il s'agit.
Petra ni wie so in Breis trusa mogara so a leis Mar herui agi kam so huana da ni wie flan Aha de gas in Breis is a la paperti magara si ye Hoer ka biten ze rui vrans tu genti vras tu den no blanc Er habite nos rue de la Tawari incandi Do war and deep do war buca do alto de benichu Scandar mines rue France ne puisque conduire nervalans Argentone du Partim yarhulu yar heru don vel amo vel niven bo predio and di we on crobaz lost zo condu de marcos pibes hanes ne zarui pibes no blanc pibes armi Panari jaune de Gentang, un papa timbre des
Nous sommes donc à l'écoute de cette chanson, le papier timbré. Le papier timbré qui est une complainte traditionnelle et qui renvoie très directement à cette question fiscale. Elle évoque, Joël Cornette, la venue des représentants du roi qui apportent le papier timbré et le sceau. Et voilà, avec cette formule remarquable, la bourse du roi profonde comme la mer. Comme l'enfer toujours béante.
Voilà, et cette chanson est remarquable parce que le problème de cette révolte, c'est que nous ne disposons que de sources, finalement, de la répression. les soldats, l'armée, le gouverneur qui écrit. Et donc, voilà, on n'a pas de voix qui émane finalement des révoltés.
C'est souvent comme ça avec les jacqueries.
C'est souvent comme ça, et même, je dirais, en histoire. L'histoire est presque toujours l'histoire des vainqueurs.
Il faut corriger d'autant qu'on peut le faire.
Voilà, et justement, en Bretagne, il y a une singularité très forte qui est la tradition des guerziou, c'est-à-dire des chansons. C'est-à-dire que la société paysanne, qui est une société qui ne lit pas, qui n'écrit pas, se transmet oralement, de génération en génération, la mémoire vive, finalement, des événements.
Alors, qu'est-ce que nous dit cette chanson
à ce propos ? Ce que nous dit cette chanson, c'est une moquerie extrêmement passionnante des soldats. Qu'y a-t-il de nouveau en Bretagne ? Beaucoup de bruit, de fumée, le cheval du roi, quoique boiteux, vient d'être ferré à neuf, il va porter en Basse-Bretagne le papier timbré et le sceau. Le roi de France a 6 capitaines, grand gentilhomme, de grande noblesse, le roi a 6 capitaines pour chevaucher sa haquenée, 2 sur la selle, 2 sur le cou, et 2 autres au bout de la croupe. Et écoutez ça, c'est vraiment une critique de ces 6 soldats qui représentent l'armée. Légère armée qu'a le roi de France dans notre balance, elle ne pèsera pas 100 livres. Le premier porte le drapeau et la fleur de lys du poltron. Le second tient une épée rouillée qui ne fera de mal à personne. Le troisième a des éperons de paille pour égratigner la sale bête. La quatrième porte 2 plumes, une sur son chapeau de capitaine, une sur son chapeau avec le cinquième sont les remèdes de malheur, le papier timbré, la bourse vide, la bourse du roi, profonde comme la mer, comme l'enfer toujours béante. On est en prise directe avec voilà, l'imaginaire des révoltés, à savoir que voilà, ce roi de France très étranger, très lointain, nous apporte vraiment des choses épouvantables, des impôts, un surprélèvement. Et la comparaison avec l'enfer est très forte dans cette société très chrétienne, qui vit dans la hantise du mal, dans la hantise de l'enfer, on peut imaginer évidemment la force de cette image, comparer finalement le roi de France presque au diable. Ça va très loin. Et la chanson se termine, et elle est très intéressante.
Sur la longue durée.
Sur la longue durée, voilà. Elle est transmise de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Et la chanson se termine, « Mes amis, ce n'est pas faux ce que racontent les vieillards, du temps de la duchesse Anne, on ne nous traitait pas ainsi. »
Renvoie toujours à l'acte.
Voilà, et ça renvoie à l'acte fondateur, à savoir que, autant de notre bonne duchesse.
1532.
Et avant 1532, il y avait une liberté. La Bretagne était finalement libre par rapport aux impôts du roi, alors que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une sorte d'oppression absolument intolérable. Et donc là, vraiment, on est en prise directe avec l'imaginaire populaire, tel en tout cas qu'on peut le retrouver à travers ces quelques mots.
Comment surgit et comment se déroule la révolte entre les villes d'un côté et les campagnes de l'autre?
Oui, alors il y a deux temps, logiques et chronologiques. Le premier temps, c'est un temps urbain. La révolte commence dans les deux grandes villes de Bretagne, Rennes d'abord, Nantes ensuite. Et à Rennes, il y a une série de mouvements. Le premier, c'est le 18 avril 1675, où le bureau de la distribution du tabac et le bureau du papier timbré sont pillés. Les presses de timbrage du papier sont détruites et les témoins parlent de 2000 personnes en fureur qui crient « Vive le roi sans gabelle et sans édit ». On pourra peut-être parler de la gabelle, qui est une sorte d'impôt qu'on ne connaît pas en Bretagne d'ailleurs et dont on a peur.
Parlez-en tout de suite, la gabelle.
Oui, la gabelle, c'est l'impôt sur le sel, impôt fondamental, mais la Bretagne est ce qu'on appelle un pays rédimé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt. Et les bruits qui se colportent en Bretagne depuis le début de la guerre de Hollande, c'est qu'on va établir en Bretagne la gabelle. Mais comme personne ne sait ce que c'est de la gabelle, on imagine qu'il y a un phénomène presque de panique qui apparaît. Et donc la gabelle, on dit, est-ce que c'est une femme terrible qui va arriver, qui va
monstre.
Un monstre, voilà, un monstre. Et on a des chansons, là aussi, qui disent que la gabelle, Dame Gabelle, va arriver et puis va absolument appauvrir toute la province.
On a le récit, d'ailleurs, de paysans qui croient que la gabelle, ce monstre, est cachée dans l'église et qui, du coup, vont ravager celle-ci et taper sur le malheureux curé.
Voilà, sur le pauvre curé, voilà, qui paraît comme responsable de celui qui va apporter la gabelle. C'est faux, évidemment. Mais là, on est dans des phénomènes de panique qui sont proches de ce qu'on verra en 1789, ce qu'on appelle la grande peur, c'est-à-dire des phénomènes imaginaire qui se transporte de village en village.
Avec la rumeur, sonne, avec la rumeur qui est puissante.
Voilà, la rumeur, la puissance de la rumeur. Tout le monde s'arme et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a rien. Mais voilà, la Bretagne est prise aussi par cette panique qui va de village en village dans l'été 75. Mais ça commence donc par les révoltes urbaines à Rennes et à Nantes où les bureaux du papier timbré sont pillés. Et alors ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a une répression, mais je dirais une répression entre guillemets, modérée. Le duc de Chaulnes, le gouverneur, n'est pas là. On va suggérer aux représentants du roi que, eh bien, finalement, les procureurs, les notaires, les classes dirigeantes qui auraient dû faire tout pour arrêter la révolte sont finalement pas tout à fait en désaccord avec ceux qui se révoltent. Et là, on retrouve justement ce problème de solidarité sociale qu'on retrouve d'ailleurs avec l'écotaxe d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui a marqué justement les manifestations de novembre 2013, qui ont surpris notamment les syndicats, c'est qu'on trouvait là associés aussi bien des salariés, des agriculteurs, des pêcheurs, des ouvriers, des patrons, donc un rassemblement, une sorte d'attrape-tout social qui a un peu décontenancé.
Et irrité parfois les gens du front de gauche ou ailleurs.
Oui, absolument. Voilà. Et donc en 1675, toute proportion gardée évidemment, parce que comparaison n'est pas tout à fait raison, on assiste aussi à une sorte de front social contre des décisions venues d'ailleurs et venues notamment de l'État central, c'est-à-dire de Paris. Donc il y a bien là une identité bretonne qu'il faut remarquer. Et ça expliquera, on y reviendra, la puissance de la répression, la violence de la répression de l'État central qui envoie l'armée pour vraiment occuper la Bretagne pratiquement comme dans un pays conquis.
Le roi fait de vifs reproches aux parlementaires pour n'avoir pas servi son autorité
tout
sur place.
Tout à fait. Voilà, un des points importants, c'est que le gouverneur, notamment le duc de Chaulnes, pense que le Parlement n'a pas joué son rôle de chambre de justice et donc n'a pas, disons, pesé pour que la répression soit forte. Et le résultat, c'est que le Parlement de Rennes sera exilé à Vannes jusqu'en 1690, ce qui est une marque d'infamie, puisqu'on enlève au Parlement sa place dans la capitale de la Bretagne, à Rennes. Donc c'est vraiment là une punition extrêmement forte.
Vous évoquez le duc de Chaulnes, qui est le gouverneur de la Bretagne. Madame de Sévigné, dans une de ses lettres, raconte une mésaventure qui est arrivée à sa femme. Écoutons-la.
Ce 11 juin 1675. Je suis fâchée, ma bonne. Je n'ai point reçu de vos lettres, c'est ordinaire. Je ne sais pas si c'est que le courrier les laisse, comme il fait quelquefois, ou s'il est arrivé trop tard pour qu'on les ait pu mettre le mercredi à la poste de Bretagne. Enfin, je pense tout, plutôt que de penser que vous ne m'ayez pas écrit. J'ai sur cela une extrême confiance. Madame la Duchesse de Chaulnes me charge d'un paquet d'affection pour vous. Il lui est advenu au premier jour de juin une aventure que seuls les méchants trouveront piquante. Comme elle passait en carrosse dans la rue Haute, on lui demanda de nommer un enfant. Vous savez qu'il est ici d'usage de réclamer d'une personne de qualité qu'elle donne ses prénoms à un nouveau-né. Madame de Chaulnes s'était penchée à la portière pour s'exécuter courtoisement, lorsqu'on lui jeta de l'extérieur une charogne de chat sur les genoux en criant
« Vive le roi sans gabelle ! Vive le roi sans gabelle !
C'était une lecture de Daniel Vol de cette lettre de Madame de Sévigné, extraite de la Tribune de l'Histoire sur France Inter le 29 mai 1976. Joël Cornette, ce texte est assez significatif, non ?
Oui, d'abord, Madame de Sévigné, c'est une de nos sources importantes. Elle écrit beaucoup de lettres sur la révolte. Elle est partagée, d'ailleurs, dans un premier temps. Elle est vraiment très choquée par ces révoltés, ces sauvages, ce peuple qui ose manifester. Et très vite, on sera un peu effrayé par la répression. Ce qu'elle dit ici est très intéressant, puisqu'elle met l'accent sur la Duchesse de Chaulnes, les malheurs de la Duchesse de Chaulnes, qui se fait agresser par le peuple dans la rue Haute, qui est un faubourg de Rennes. Et voilà, ça manifeste la violence là antisociale, enfin anti-parisienne en même temps, puisque la duchesse est l'épouse du gouverneur, c'est-à-dire le représentant du roi. Et le gouverneur s'est d'ailleurs très choqué qu'on ait osé attaquer sa femme, et ça expliquera la violence de la répression. Finalement, c'est tout Rennes qui sera puni pour cet affront qu'on a osé faire à celle qui était l'épouse du représentant du roi de France.
Cette charogne de chat va peser très lourd dans la répression.
Qu'on jette sur son carrosse, évidemment.
Sur ses genoux.
Sur ses genoux. Et on dit aussi qu'elle a reçu des pierres dans son jardin, dans son hôtel particulier de Rennes. Donc voilà des gestes à la fois symboliques, mais aussi très forts. Et ça expliquera la violence de la répression du gouverneur.
Le paroxysme de la révolte survient en juillet-août 1675, n'est-ce pas ? Dans la région de Carex.
C'est la deuxième phase en quelque sorte de la révolte. C'est une révolte paysanne. Donc après les insurrections de Rennes et de Nantes, eh bien dans beaucoup de villages et de communautés rurales, il y a vraiment une opposition très forte. Et des dizaines, voire même des centaines de villages commencent à se révolter, à la fois contre les taxes et contre l'impôt. Mais ça aussi, c'est très intéressant. La révolte va avoir une double identité. C'est-à-dire qu'en Bretagne, les paysans vont aussi se révolter contre leur seigneur. Et donc, on a à la fois un mouvement anti-étatique, anti-fiscal, et une révolte, je dirais, anti-féodale, puisque beaucoup de paysans vont contester le prélèvement, et notamment les impôts seigneuriaux, le champart, notamment, c'est l'impôt principal, les corvées aussi.
Le champart, c'est un...
Le champart, c'est l'impôt principal qui touche le domaine congéable, c'est une part du champ, c'est-à-dire... alors, les pourcentages sont divers, mais disons, c'est entre 15 et 20% de la récolte.
Tout ce qui est en l'air, non ?
Voilà. Et donc, les paysans, ils vont s'en prendre au seigneur. Hein. Il y aura des brûlements. Alors, malheureusement, on a peu de sources sur ce qui s'est réellement passé. On a évidemment des échos, on a des lettres, j'ai parlé notamment des lettres du gouverneur à Colbert, mais on sait que plusieurs châteaux ont été attaqués, que des seigneurs ont été blessés, voire tués. Donc il y a vraiment là un mouvement très fort, anti-seigneurial, dans la région de Pontivy, dans la région de Carré, dans la région de Pont-l'Abbé, essentiellement dans la partie armoricaine, la partie la plus ouest finalement de la Bretagne, la basse Bretagne d'aujourd'hui en quelque sorte.
Chaque fois on trouve à la racine de cette révolte l'évidence qu'il y a eu un contraste entre la prospérité antérieure et la crise qui survient. Et là, évidemment, les comparaisons avec aujourd'hui sont frappantes, puisque la prospérité bretonne a été très marquée pendant les Trente Glorieuses. Beaucoup d'endroits sont sortis vraiment de la pauvreté. Et maintenant, l'arrivée de la mondialisation, en particulier du côté, par exemple, des volaillers ou du monde de ceux qui élèvent des porcs, a été très brutale.
Voilà, tout à fait. Et là, on peut vraiment faire une comparaison. Il y a bien une concordance de temps entre la crise de la mondialisation, finalement, qui touche de plein fouet la Bretagne, avec l'écotaxe, on l'a vu, mais au-delà de l'écotaxe, c'est aussi la concurrence des marchés, la concurrence notamment des salaires. En Allemagne, les salaires sont beaucoup plus faibles qu'en Bretagne, et donc ça touche notamment, je pense, aux porcs, je pense à la commercialisation de la volaille. Et donc tout ça, ça frappe de plein fouet ce qui a été le fer de lance de la révolution bretonne des années 1950-1960. Et là, la concordance de temps peut se faire avec le XVIIe siècle, puisque ce à quoi on assiste aussi avec la révolte du papier timbré, c'est la cassure d'une prospérité. Et finalement, la révolution bretonne des années 1950-1980 est tout à fait comparable à l'âge d'or de la Bretagne du 15e, 16e, 17e siècle et qui est brutalement cassé par, je dirais, l'impérialisme étatique louis XIVien dont la guerre a été le vecteur principal. Donc là, vraiment, la concordance de temps est tout à fait frappante. Dans les deux cas, c'est deux économies qui sont remises en question.
Dans le cas contemporain, vous l'évoquez à juste titre, il y a la concurrence, par exemple, de l'Allemagne, puisque c'est tout récemment seulement qu'on vient d'y introduire un salaire minimum et que jusque-là, il y avait la possibilité d'employer des immigrés qui coûtaient très peu cher.
Voilà, on parle de 4 ou 5 euros de l'heure en Allemagne. Et évidemment, par rapport aux ouvriers bretons, c'est impossible, évidemment, d'arriver à un tel niveau. Donc là, il y a une concurrence frontale, une lutte entre les économies. Et là, la Bretagne se trouve disqualifiée. Et donc, un des éléments clés de sa prospérité se trouve mis, évidemment, en question.
Cette question des solidarités, ou au contraire des divergences d'intérêts entre les classes populaires et les dirigeants, demeure au centre de toute réflexion possible. Elle est déjà d'ailleurs dans l'esprit du régent, un demi-siècle après les événements dont nous parlons, un peu moins d'un demi-siècle, tel qu'il s'exprime dans le film, très beau film célèbre de Bertrand Tavernier, Que la fête commence. C'est un film qui est sorti en 1975 et c'est ici Philippe Noiret, comme on sait, qui interprète le régent avec Jean Rochefort dans le rôle de l'abbé Dubois, qui sera cardinal Dubois, qui est le principal ministre du dit régent.
Je viens de lire le rapport de monsieur de Montesquieu, je ne sais pas s'il y voit bien clair dans cette histoire de Bretagne. Je crois que nous avons affaire à une poignée de petits nobles cabochards dirigés par le marquis de Pontcallec qui rêvent d'une république bretonne où ils n'auraient plus d'impôts à nous payer. Mais qu'est-ce qu'il y aurait dans leur république? Quelques pauvres diables de hobereaux, mais des paysans, des vrais pauvres. Non, il n'y en aurait pas un seul. La misère ne peut pas faire d'un paysan le frère d'un noble. Même s'ils sont gueux tous les deux, ce sont deux gueuseries différentes. Elles ne se mélangent pas. Alors, je te le demande... Quelles troupes auront-ils?
Celles du roi d'Espagne.
Non. Non, je ne crois pas que les Bretons feraient appel à l'étranger, surtout pas à l'Espagne.
Les membres de votre famille l'ont bien fait lors de la conspiration de Chellamare.
Ils l'ont pourtant gentiment étouffée, cette conspiration, tu t'en souviens? Sans aucune goutte de sang. Nous les avons couverts de ridicule.
Oui, nous sommes au temps de la Régence, donc après la mort de Louis XIV. Et de nouveau, l'histoire semble rejouer, puisque les Bretons, de nouveau, se révoltent. Et cette révolte s'est identifiée au marquis de Pontcallec, qui est un petit nobliau de la région de Vannes, qui, c'est vrai, a rêvé d'une sorte d'armorique un peu indépendante. L'idée, c'est de mettre en place sur le trône de France le roi d'Espagne, qui est le petit-fils de Louis XIV. Donc il y a une sorte de légitimité, en quelque sorte, sanguine, dynastique. La révolte va échoué, mais on retrouve dans cette révolte de Pontcallec un petit peu de cet imaginaire breton, c'est-à-dire les libertés de l'Armorique, le retour de la reine Anne, des impôts trop élevés, la guerre qui a posé trop lourd sur l'économie. Donc on retrouve ce phénomène d'identité là qui joue très fort.
Et en 1675, quel leader émerge-t-il, qui annonce déjà le marquis de Pontcallec?
Oui, alors bon, je ne sais pas si on peut comparer le ou les leaders de la révolte des Bonnets Rouges au marquis de Pontcallec. D'ailleurs, on ignore à peu près tout de ces leaders. Il y a sûrement eu des leaders. Alors, il y a un nom qui apparaît dans les sources, c'est Sébastien Le Balp. Alors Sébastien Le Balp, qui est-il? C'est un notaire. C'est un notaire qui travaille dans la région de Carré. Bon, on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait simplement que, et certains textes disent que c'est lui qui a mené, dirigé les révoltés. On sait aussi qu'il a été assassiné entre le 2 et 3 septembre 1675.
Par un noble.
Le marquis de Montgaillard. Après cet assassinat, la révolte s'est d'une certaine manière pas dissoute, mais en tout cas, c'est vraiment réduite. Et puis, on va y revenir, l'armée était là.
On ne souhaite pas le même destin à Christian Troadec, qui est le maire de Carré, qui apparaît comme le leader.
Il y a là aussi une identité, je dirais, de localisation, puisque Christian Troadec, maire de Carré, Sébastien Le Balp, on n'est pas très loin de Carré, mais j'arrêterai là, évidemment, la comparaison.
Le bas clergé joue un rôle aussi dans le soulèvement?
Le bas clergé joue sûrement un rôle. Le bas clergé, les curés, c'est un peu les intermédiaires culturels. Et les paysans ont beaucoup d'estime pour leurs curés. Alors je dirais qu'il y a deux choses. Les paysans ne veulent pas payer la dîme. Ils trouvent la dîme trop élevée, donc ça touche l'Église, ça touche le clergé.
Les recteurs.
Mais ils aimeraient en même temps avoir, je dirais, un clergé presque entre guillemets nationalisé. C'est-à-dire qu'on reviendra éventuellement sur le code paysan. Un des articles du code paysan dit qu'il faudrait que le clergé soit payé régulièrement, y compris par la communauté, mais pas par les dîmes. Donc voilà, il y a les deux aspects, c'est-à-dire refus de l'impôt de l'Église, mais en même temps reconnaissance de l'importance toute particulière du curé. Mais si le curé exagère, s'il prélève trop d'impôts, ça peut être embêtant. Par exemple, on a des sacristies qui sont mises à feu, donc qui sont attaquées. Donc vous voyez, il faut nuancer en quelque sorte. Le sentiment n'est pas unanime pour les curés.
L'histoire électorale de la Bretagne depuis quelques décennies est marquée par le vote de gauche, un vote catholique de gauche. Peut-être est-ce aussi dans la ligne de ce que vous dites à propos du XVIIe siècle.
Oui, c'est vrai que la Bretagne vote plutôt socialiste, vote plutôt à gauche. La Bretagne est la seule province qui a voté vraiment pour l'Europe. Et donc il y a là une singularité tout à fait forte à noter sur le plan politique. Mais c'est assez récent ce basculement à gauche de la Bretagne, enfin d'une partie de la Bretagne en tout cas, parce que là encore, il ne faut pas généraliser.
Vous disiez, Joël Cornette, qu'il y a un déséquilibre des sources. On a néanmoins un texte très intéressant qui peut également éclairer sur la longue durée. C'est ce fameux code paysan qui exprime des aspirations et qui annonce d'une certaine façon les fameux cahiers de doléances de 1789. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, voilà, parmi ces sources vraiment qui émanent des révoltés, on a quelques documents, et parmi ces documents, un texte très étrange qui s'appelle le Code paysan, qui est un règlement fait par, alors je cite le texte, les nobles habitants de 14 paroisses unies du pays d'Armorique, situées depuis Douarnenez jusqu'à Concarneau. Et donc c'est un texte revendicatif en 14 articles qui détaille en français, alors ça aussi c'est une singularité puisque les révoltés de cette partie ouest de la Bretagne, c'est des bretonnants qui s'expriment en breton. Or ici on a une transposition en français de leur doléance. Et leur doléance apparaît sous forme d'articles, presque de loi, articles juridiques. Et c'est pour ça que certains historiens ont pensé que peut-être Sébastien Le Balp, je parlais du notaire tout à l'heure, c'est peut-être lui qui serait à l'origine de la transcription écrite de ces revendications paysannes.
Qu'y a-t-il dans ce texte?
Alors, il y a 14 articles qui sont à la fois, évidemment, contre l'impôt, c'est-à-dire qu'on met en cause les impôts du roi, notamment l'impôt qui fait très peur, qui n'existe pas encore, la gabelle. Je peux vous lire d'ailleurs, l'article 6 dit « Il est défendu à peine d'être passé par la fourche de donner retraite à la gabelle et à ses enfants et de leur fournir ni à manger ni aucune commodité, mais au contraire, il est enjoint de tirer sur elle comme sur un chien enragé. »
Madame de Sévigné en parle dans une de ses lettres, d'ailleurs.
Absolument,
de cette...
on n'est pas loin, ici, vous vous rappelez de la chanson avec les chevaux éthiques, là, c'est-à-dire, on est dans l'imaginaire, et ici, la gabelle, on l'imagine une femme terrible, une sorte de sorcière méchante, qui va venir et tirer sur les paysans. Donc voilà, et là, je pense que l'article restitue assez bien cet imaginaire qui circule dans les campagnes bretonnes. Alors, en même temps, beaucoup d'articles sont contre les seigneurs. Par exemple, l'article 4 dit que les droits de champard et corvée prétendus par les dix gentilshommes seront abolis comme une violation de la liberté armorique. Là, vous voyez, c'est quand même un article très très fort. On ne met pas en question le régime féodal, mais en tout cas, on remet en question l'impôt principal des seigneurs. Il y a aussi d'autres revendications qui touchent l'identité politique de ces paysans, puisque le premier article, et là, c'est presque l'étymologie des bonnets rouges, le premier article dit que les 14 paroisses, unies ensemble pour la liberté de la province, députeront 6 des plus notables de leurs habitants aux états prochains pour déduire les raisons de leur soulèvement, lesquels seront défrayés aux dépens de leur communauté, qui leur fourniront, et voici l'idée clé, à chacun un bonnet et camisole rouge, un haut de chausses bleu avec la veste et l'équipage convenable à leur qualité. Je dirais que c'est presque émouvant, c'est même complètement émouvant, parce que là, les paysans qui n'ont jamais le droit à la parole politique réclament finalement voix au chapitre. C'est-à-dire qu'ils veulent être aux états provinciaux qui se réunissent tous les 2 ans et donc émettre leur doléance et donc faire parvenir auprès du roi leurs revendications. Je précise aussi que dans ce code, il n'y a absolument aucune critique du roi.
Alors ça, c'est la vieille idée que si le roi savait ça.
Voilà. Ah. Voilà, c'est exactement ça. Si le roi savait ça. C'est-à-dire que les responsables, c'est pas Louis XIV, c'est les intermédiaires. C'est les gableurs, c'est les représentants du fisc, c'est les procureurs, c'est les notables. Mais le roi ne le sait pas.
Là, je ne suis pas sûr que les protestations des bonnets rouges contemporains se soient arrêtées à la porte de l'Élysée.
Oui, c'est vrai qu'il y a un problème de dialogue, là. Et justement, c'est peut-être un signe. Je crois que Jean-Marc Ayrault est allé jusqu'à Rennes. Or, l'épicentre de la révolte de l'Écostax, si je ne m'abuse, c'est quand même l'Armorique. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu pousser un peu plus loin, notamment vers le Finistère et vers Brest. Il y a là, finalement, non pas une Bretagne, mais deux Bretagnes. Hein. Et entre la Haute et la Basse-Bretagne, il y a quand même là une différence importante. Et je suis très sensible au fait que c'est à Rennes et à Nantes que s'expriment nos dirigeants. Peut-être ferait-il bien de pousser vers justement cette ère armoricaine qui était l'épicentre là, de la révolte dont nous parlons aujourd'hui, celle des bonnets rouges de 1675.
Venons-en à la répression qui va nous éloigner de la concordance des temps, enfin pour l'heure en tout cas, car elle est infiniment plus violente que celle que nous avons pu voir, en particulier autour des portiques de l'écotaxe ou des radars qui ont été abandonnés à la fureur des protestataires. On n'a pas vu, heureusement, il y a quelques semaines, les arbres pendre sous le poids des pendus.
Voilà, ce qui est très frappant dans cette révolte, c'est la fin de la révolte, si je puis dire. C'est une révolte, une fin sanglante, une fin terrible. Et là, la puissance de l'État, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. La puissance de l'État a été très grande. La réaction du duc de Chaulnes, c'est de demander des troupes. 6 000 hommes donc viennent dès la fin de l'été, et 6 000 hommes qui interviennent en Bretagne vraiment comme dans un pays de conquête. Ils rentrent à Rennes d'ailleurs, comme on dit, balle en bouche, prêts à tirer, et donc ils occupent la ville pratiquement comme s'ils avaient conquis une ville assiégée. Et la répression a été notamment violente dans les campagnes. Et effectivement, vous parliez d'arbres dépendus. On a des lettres terribles de Madame de Sévigné qui racontent la fureur des soldats qui s'acharnent sur les paysans, qui décapitent les clochers, qui envoient beaucoup de paysans aux galères,
qui violent les femmes.
Et là, la diversité des témoignages montre que ce n'est pas du tout une exagération, c'est une réalité. Je citerai un seul exemple d'une condamnation. Il s'appelle Alain Lemoigne et Laurent Lequeo. Écoutez ça, c'est ça. Ça s'est passé à Carré, justement. être pris par l'exécuteur de haute justice, la corde au cou, tête et pieds nus, en chemise, tenant une torche allumée en main, du poids de 6 livres, être conduit au martyre de cette ville pour, écoutez ça, sur un échafaud, y être sur une croix de Saint-André étendue, son corps et ses membres rompus et brisés à coups de barre de fer, y celui préalablement étranglé, son corps porté dans la paroisse de Briec et mis sur une roue élevée de 8 pieds sur le proche grand chemin de la Boixière et y demeurer jusqu'à parfaite consommation. Donc oui, acharnement sur le corps, c'est presque l'éclat des supplices dont parle Michel Foucault dans Surveiller et punir. Vous avez là vraiment une sorte d'état spectacle qui fait de la justice vraiment le moyen de croire finalement, croire dans l'autorité du roi. Donc on expose des corps pour que les paysans plus jamais n'osent se révolter contre l'autorité centrale.
Madame de Sévigné écrit à sa fille, Madame de Grignan, vous pouvez compter qu'il n'y a plus de Bretagne, et c'est dommage. Un marchand rennais, René Duchemin, rapporte dans son journal que plusieurs habitants ont été battus, effectivement, vous le dites, par les soldats logés chez eux. Ils ont tellement vexé, au sens ancien du terme, les habitants qu'ils ont jeté de leurs hôtes et hôtesses par les fenêtres. Après les avoir battus et excédés, ont violé des femmes, lié des enfants tout nus sur des broches. Ah oui, l'idée qu'on a beaucoup rôti des malheureux enfants sur des broches pour les vouloir faire rôtir, rompu et brûler leurs meubles, démoli les fenêtres et vitres des maisons, exigé grandes sommes de leurs hôtes et commis tant de crimes qu'ils égalent Rennes à la destruction de Jérusalem. À vrai dire, on avait assisté à des horreurs semblables en Franche-Comté au moment de la guerre de 10 ans, au cœur de la guerre de 30 ans. Quelques 2 générations plus tôt, brutalité des soudards.
Voilà, on a vraiment l'impression d'une histoire un peu, j'oserais dire, rétro. C'est-à-dire que ce qui se passe en Bretagne dans les années 1675-16, c'est ce qui se passait dans le royaume 2 générations avant, en 1630, 1640, une génération en tout cas. Donc on est loin, évidemment, des ordres de Versailles. Il y a là un traitement particulier de la Bretagne. Dans la longue durée, on pourrait presque dire, voilà, c'est... Je parlais tout à l'heure de l'âge d'or de la Bretagne, c'est le titre d'un livre d'Alain Croix. Maintenant, c'est l'âge de fer. Et la Bretagne noire, la Bretagne sombre, la Bretagne déprimée économiquement, ben je pense qu'on peut tirer un long fil rouge ou noir et qui va jusqu'aux années 1950. C'est-à-dire que là, je me permets là d'embrasser large, si je puis dire, mais la Bretagne déprimée, la Bretagne en dépression économique, va pratiquement de 1680 jusqu'à la Révolution des années 1950.
Même 60, c'est le moment de Gourvennec.
Voilà,
c'est
absolument.
Des émotions.
Voilà, et ça rend d'autant plus, je dirais, brûlant ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui en 2014, ça pourrait être, mais alors c'est un risque, est-ce qu'il y aurait de nouveau une sorte, de, je dirais, de chute de la Bretagne, comparable, évidemment, toute proportion gardée à celle de 1675. Évidemment, il ne faut pas l'imaginer, mais je crois qu'il y a là un vrai défi pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette économie bretonne retrouve, évidemment, un second souffle et qu'on n'entre pas dans une sorte de cycle dépressif, déprimé, comme la révolte des Bonnets Rouges le met en valeur.
Est-ce que la répression brutale, sanglante, à vrai dire barbare, de la révolte des Bonnets Rouges de 1675 a pu contribuer à son tour à un déclin de l'économie, à une dépression?
Oui, absolument, parce que la guerre de Louis XIV continue. Et qui dit guerre de Louis XIV dit notamment blocus commercial. Or, l'économie de la Bretagne, si je puis dire en quelques mots, c'est une économie extravertie. Le royaume de Louis XIV, c'est un royaume terrien, un royaume de paysans. Je dirais le royaume breton, c'est un royaume de marins. Le protectionnisme colbertien a complètement cassé l'économie extravertie de la Bretagne. La Bretagne, si je puis dire, c'était le Japon de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une économie fondée sur la mer, fondée sur les échanges, fondée sur la communication, un peu comme la Hollande, finalement. À la limite, toute proportion gardée, le Portugal, la Hollande, le Japon, ben voilà des comparaisons qui pourraient se faire avec cette Bretagne maritime, commerciale, extrêmement positive sur le plan économique, et c'est ça qui a été cassé par les guerres terribles de Louis XIV, et notamment les 2 dernières guerres, puisque la guerre de Hollande, si je puis dire, ça a été une petite guerre par rapport aux 2 terribles guerres de la fin du règne, que sont la guerre de la Ligue d'Augsbourg entre 1688 et 1697 et la guerre de succession d'Espagne 1701-1713, qui elles aussi ont contribué à diminuer fortement l'économie bretonne et notamment l'économie commerciale, le commerce d'étoiles notamment, qui a subi
l'or blanc,
de plein fouet.
L'or blanc, vous disiez.
Voilà, l'or blanc de la Bretagne, c'est terminé. Et d'ailleurs, la renaissance de la Bretagne s'est terminée. Plus d'enclos, plus de calvaires, plus d'églises somptueuses. Il y a une stérilisation, finalement, de cette renaissance. Et quand on se promène en Bretagne aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est justement cette période d'âge d'or. C'est la troisième fois que ce terme, je viens de l'employer, mais il est parfaitement justifié. Cet âge d'or qui s'arrête au temps de Louis XIV.
Sur la répression et sur la mémoire dans le temps successif après cette révolte de 1775, je vais vous faire entendre une seconde chanson en breton, Joël Cornette, qu'à nouveau vous allez nous traduire, vous allez nous en dire l'essence. C'est la chanson des Bonnets Rouges, qui est interprétée par Gueltaz Anfur, qui est en fait une chanson ultérieure, mais qui reflète assez bien ce qui est resté dans le souvenir des Bretons.
Ople milwe kampen ze katrigen E wa sabet e breizen dis Par braze ke raez ar balpen an et gulben sala O de sabet ar breizen zit bez a zo va An on dut se zo ar bon e douru Dor e ben o yud breze la mar de roaz kour Evid ar sun erien nivo ar mal o zru Par saouta de franquise potre dans la peau Aux herbis j'avouen aimé dans nos blances Du larpable au de snahed au query ou des reis A dragonet et l'arrière de ta beau France Du bispey au brûleur d'appel à tes feilles Miliadus maro a miliadus roas Miliadou nem savo hag nem savo hoaz Am a breudeur a vremen pag nem savidu Dal hit son da tau deus a bonne du We're camping the Gatigan. We was sabe de brazen dis par bras. We can rise a balpin on the golden salon. For the sabe da phrases with pesa so far.
Quoi, en l'an 1675, eut lieu en Bretagne une grande révolte à Carhaix-le-Balpe, à Nantes. Goulven-Salin soulevait les Bretons pour la justice. Et la suite.
Le nom de ces gens-là est les Bonnets Rouges, casse-lui la tête, leur cri de guerre est mort à l'oppresseur. Pour les exploiteurs, ce sera la pire des malédictions. Debout pour la liberté, les gars d'Armorique, à servir le roi, il ne reste que la noblesse. Les gens du peuple ont rejeté leurs privilèges injustes et les dragons, en ce qu'on dit, sont arrivés de France pour ramener nos frères à la vraie foi. Des milliers sont morts et encore des milliers se sont levés et se lèveront encore. Et vous, mes frères d'aujourd'hui, quand vous vous soulevez, pensez toujours aux Bonnets Rouges. Cette chanson est remarquable parce que elle est des années 1970. Et là, c'est une sorte de Bretagne rénovée, de Bretagne nouvelle, qui cette fois est fière de son identité. C'est les années 68, post-68, hein, où il y a eu des mouvements de contestation contre l'État central, mais où l'histoire rejoue et on se sert justement du passé, non pas de façon malheureuse ou triste, mais au contraire pour revendiquer et dire, ben voilà, ils se sont révoltés en 1675, ce sont nos ancêtres et nous pouvons prendre leur suite.
Il y a même forte identité que mais avec des erreurs quand même, parce que j'ai jamais eu des milliers de morts.
Voilà, c'est un peu exagéré. Hein. Nous sommes ici dans l'imaginaire de l'histoire de la Bretagne, mais cet imaginaire joue à plein quand même. Et donc, on le voit, les Bonnets Rouges, c'est pas simplement 2013 et 1675, c'est aussi une sorte de série de moments où l'histoire revient et on se sert du passé, en quelque sorte, pour justifier des revendications présentes. Je précise d'ailleurs que dans ces années-là, au début des années 70, une pièce a été représentée, la pièce des Bonnets Rouges.
Qui a circulé beaucoup Bretagne.
Voilà, le théâtre était un autre moyen de valoriser les révoltés et de retrouver finalement cette identité bretonne à partir de ces grands ancêtres qui ont osé se révolter contre la puissance de Louis XIV.
La pièce de Paul Kenegg s'appelait Le printemps des Bonnets Rouges.
Le printemps des Bonnets Rouges, absolument.
A circulé entre 1972 et 1975.
Voilà, elle a eu mobilisation. Un certain succès et elle développait, je dirais, un peu la thèse régionaliste ou nationaliste, puisque là on se trouve finalement face à la signification de la révolte, hein, puisque la révolte des Bonnets Rouges a bénéficié quand même des recherches des historiens. Et on a des livres importants et des thèses d'ailleurs qui se sont affrontées sur l'identité de la révolte.
Quelles sont les thèses qui s'affrontent ?
Y a plusieurs thèses. Il y a d'abord une thèse qui... Alors, je ne dirais pas quelle est la plus juste, mais certains ont pensé que cette révolte manifestait bien l'archaïsme du système seigneurial breton. Et celui qui a développé cette idée, c'est Roland Mounier, qui est un grand historien de l'Ancien Régime, et dans Les Fureurs paysannes, un texte qui est paru en 1967, il explique que la révolte des paysans bretons était essentiellement antifiscale, et donc traduirait l'opposition des masses rurales à la centralisation de l'État.
C'est votre avis principalement ?
Sûrement, c'est une des composantes évidentes de la révolte. Alors les autres thèses, il y a l'idée d'une lutte de classe, c'est-à-dire les riches contre les pauvres en quelque sorte. Et cette thèse a été développée par Arthur de la Borderie. Alors qui est Arthur de la Borderie ? Il est un peu oublié aujourd'hui.
19e siècle.
C'est au 19e siècle, c'est un peu notre Lavis breton.
Conservateur.
Conservateur, et qui est obsédé par, je dirais, la peur, la hantise de ce qu'il appelle le communisme. Je vous lis d'ailleurs un extrait là, de son livre qui est paru en 1884, « La révolte du papier timbré advenue en Bretagne ». Voici ce qu'il écrit. « Les exaltés ne s'en tinrent pas là et descendirent logiquement la pente où ils s'étaient engagés. Peu de temps après, ils en étaient déjà rendus au communisme et aux violences contre les prêtres, tant il est vrai que rien n'est nouveau sous le soleil et que les passions populaires, une fois affranchies du lien social, se précipitent d'un seul bond au gouffre de la barbarie. »
Quelle horreur.
Mais là, on est vraiment dans une histoire un peu spéciale. C'est la fin du 19e siècle. Et donc, c'est évidemment tout à fait exagéré.
C'est lui qui cite un propos d'un bourgeois de l'époque. Oui. « Se sentant menacé, dit-il, par une cohorte séditieuse de populace vagabonde et libertine. »
Voilà, absolument. Mais il y a aussi une autre analyse, celle de Boris Porchnev, qui est un historien soviétique, qui a beaucoup écrit sur les révoltes populaires et qui, dans les années 40, a écrit un texte très précis, très précieux, qui s'appelle « Les buts et les revendications des paysans lors de la révolte bretonne de 1675 ». Et lui, c'est assez intéressant parce qu'il voit dans cette révolte une anticipation de 1789. C'est vrai qu'on a vu que le code paysan rappelait un peu les cahiers de doléances, et donc son analyse, d'ailleurs, repose essentiellement sur les étude de ses cahiers, et il insiste sur le front de classe, c'est le mot qu'il emploie, qui oppose les paysans aux seigneurs et plus globalement à tout l'appareil de domination qui s'impose à la société rurale. Alors il y a une troisième thèse que j'appellerais la thèse nationaliste, et justement on a écouté tout à l'heure une chanson, j'ai parlé d'une pièce de théâtre. Cette thèse s'est développée dans les années 1970, et selon cette thèse, la révolte des Bonnets Rouges serait une étape finalement de la lutte du peuple breton pour son émancipation. Et donc on se sert d'Anne de Bretagne, on se sert évidemment de la période d'indépendance pour montrer que il y a des moments où l'identité bretonne est tellement forte qu'il faut absolument que la Bretagne retrouve la liberté, l'indépendance qui était la sienne du temps des ducs.
Ça se mêle à la défense et à l'illustration de la langue bretonne ?
Oui, d'une certaine manière.
On réclame que la France adopte le principe
je pense même que c'est un problème absolument d'actualité
des langues régionales.
De la reconnaissance des langues régionales. Et le breton, évidemment, en fait partie. Et les bretons sont de nouveau très fiers de leur langue, évidemment, qui est un élément moteur de leur identité.
Même si elle est moins parlée.
Elle est moins parlée, mais le diwan, il y a quand même une école bretonnante qui fonctionne, à Carré d'ailleurs notamment, et donc qui prouve que l'identité bretonne, c'est pas du tout une chose morte, et qu'au contraire, il y a une très grande vivacité, un grand désir que la Bretagne retrouve les sources à la fois de son histoire, de sa langue et de sa culture, dans tous les sens du terme.
Joël Cornette, merci beaucoup. Votre ouvrage magistral s'appelle « Histoire de la Bretagne et des Bretons », en deux tomes, paru au Seuil en 2005 et réédité en collection de poche par le même éditeur un peu plus tard. Je citerai également l'ouvrage de cet important historien que vous avez évoqué en passant, Alain Croix, « L'âge d'or de la Bretagne, 1532-1675 », qui s'achève précisément avec la révolte dont nous avons traité, paru aux éditions Ouest-France Université en 1993. Puis plus récent encore, « Qui étaient les bonnets rouges, les révoltes bretonnes de 1675 » de Michel Nassier aux éditions Skol Vraise. Quant aux deux chansons que vous avez entendues, elles sont extraites d'un recueil qui s'appelle « Révolte, résistance et révolution en Bretagne », un recueil de 2007 auquel je tiens aussi à rendre hommage. Voilà, vous pourrez retrouver tout cela avec d'autres ouvrages et notamment votre bibliographie complète, cher Joël Cornette, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez bien sûr vous exercer au breton en traduisant les chansons que nous vous avons proposées, puis réécouter et télécharger cette émission. Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été diffusée une première fois le 25 janvier 2014. La semaine prochaine, nous parlerons de la Catalogne. La Catalogne, toujours dissidente, et jusqu'où ? Point d'interrogation avec Benoît Pellistrandi. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et aussi par Jeanne Guérou, réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Jacques Hubert, et naturellement c'est un Breton de Nantes, il confirme par là Joël Cornette l'appartenance de Nantes à la Bretagne, avec pour les archivinats Gwen Michel, c'est une Bretonne, vous avez vu que nous voulions créer un climat, et aussi Véronique Jolivet, et à la discothèque Romain Couturier. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Luneau.